l'esquimau reste en place. Un bon technicien, c'est bon. Il y a à peu près une vingtaine d'années, ceux qui me connaissent disent que je vais radoter, ceux qui ne me connaissent pas, et il y en a, entendront ce récit pour la première fois. Il y a une vingtaine d'années, alors que je dirigeais un établissement de santé, il y avait des moments de rencontres spirituelles où les femmes qui étaient en soins, dans un centre en addictologie, pouvaient partager un temps spirituel une fois par semaine ou deux fois par semaine. Et un jour, j'ai demandé à l'aumônier de l'hôpital de Lorient, que je connaissais bien, qui était le père Louis-Joseph, une très grande figure au niveau religieux de la région lorientaise pendant une cinquantaine d'années. Et je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous voudriez venir apporter un temps de méditation aux patientes? Ça dure trois quarts d'heure. Et il a accepté bien volontiers. Un établissement protestant, un prêtre aumônier catholique qui vient, c'était pas très courant, mais il est venu. Et puis moi, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller écouter ce qu'il va nous raconter ou qu'il va raconter aux patientes, à la fois par intérêt, peut-être avec un léger soupçon de méfiance. Et puis il est intervenu et il a commencé par s'adresser aux patientes. Il y avait une petite dizaine de patientes qui étaient là, en leur posant cette simple question, mais pour vous, croire, c'est quoi? Alors, les unes et les autres ont répondu, c'est croire en Dieu, c'est espérer. Ils ont eu plusieurs réponses. Et elle dit, mais tout ça est vrai, tout ça c'est bien cela, croire c'est tout cela. Mais pour moi, croire, c'est d'abord faire une rencontre et que cette rencontre change votre vie. Ça c'est croire. Alors les patientes lui ont posé la question, mais comment vous avez commencé à croire? Vous lui dites, moi c'est simple, c'était pendant la guerre 39-45, il était très âgé, il avait déjà presque 90 ans. Presque. Et il disait, pendant la guerre, j'étais un jeune garçon et j'ai été arrêté à l'Anester avec mon meilleur copain qui était un animateur des jeunesses communistes de l'Anester. Et puis on avait fait des actes un peu de résistance, donc on avait moins de 20 ans, on s'est retrouvé en camp de concentration, enfin un camp dans le sud de la France avant d'être évacué. Ailleurs, et il dit, on était dans ce camp, on était plusieurs centaines et on n'avait rien à faire pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Ça a duré très longtemps. Et puis un jour, on est tombé sur une Bible. On n'avait rien d'autre à faire. Donc on s'est dit, qu'est-ce que ça nous coûte? Et on s'est mis à la lire tous les deux. Mon copain des jeunesses communistes et puis moi. Puis à force de lire les évangiles, j'ai fait la rencontre de Jésus-Christ. Et ça a transformé ma vie. Quand la guerre était terminée, on s'en est sorti sain et sauf. J'ai fait mon petit séminaire, grand séminaire, et je suis devenu prêtre. Et aujourd'hui, je suis aumônier de Lorient. Une grande figure de Lorient. Un homme avec une foi étonnante. Elle disait, la foi, croire, c'est ça. C'est rencontrer quelqu'un et que ce quelqu'un change votre vie. Il y a une patiente qui a levé la main, elle dit, et votre copain, des jeunesses communistes, il a fait quoi, lui? Il dit, il est décédé il y a quelques semaines et j'ai célébré son enterrement. Il est décédé. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, alors? Oh, il était le vicaire général de la région de Lorient. C'était amusant de voir l'étonnement de ces femmes. Ah oui, quand même. Cette rencontre a vraiment changé leur vie. Et ce matin, j'avais envie de vous parler de justement une histoire de rencontre. Est-ce que le centre même de l'existence humaine, ce n'est pas cette question de « est-ce que je rencontre Dieu ou pas ?» Et est-ce que cette rencontre peut changer ma vie du tout au tout? Dans l'évangile de Luc, il est dit que Jésus entra, au chapitre 19, dans Jéricho, et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur !» Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est un texte qui est un texte de rencontre. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent de la rencontre entre un homme et Dieu, un homme et Jésus. Et nous avons là l'exemple d'une rencontre. Alors, ce récit-là, il ne se déroule pas n'importe où ni n'importe quand. Il est dit que le lieu de la rencontre entre Zachée et Jésus s'est déroulé à Jéricho. Alors, pour ceux qui ont un minimum de culture biblique, la première mention de Jéricho qui va venir dans votre mémoire, c'est le moment où le peuple d'Israël, étant libéré du joug de l'esclavage de l'Égypte, rentre dans la terre promise. La première ville qu'ils ont à conquérir, c'est Jéricho. Et ça se passe bien. Il est dit que pour les soutenir et les encourager, le Seigneur leur dit de tourner autour de la ville avec des chants de louanges, de reconnaissance, prier, rendez gloire à Dieu. Et ils font ça pendant, ils font 7 tours de la ville, et la ville, les murs de la ville s'écroulent tout seuls, et rentrent et ils arrivent à conquérir la ville. Je dis souvent, ça c'était facile, si la vie avec Dieu était aussi facile, tout le monde serait croyant, n'est-ce pas? Alors, je dis souvent, la deuxième ville c'était Aïe. La première, Jéricho, facile. La deuxième, Aïe. C'est aussi une manière de dire que la vie avec Dieu, ce n'est pas toujours facile. Mais là, la rencontre de Jésus se passe dans cette ville de Jéricho. Il est dit qu'il traverse la ville. La ville n'est pas anodine, je dirais même au niveau symbolique. Jéricho a une particularité. Elle est répertoriée au niveau géographique comme étant la ville la plus basse existant sur Terre. Une ville, pas une maison, mais une ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ville plus basse. Elle est à 250 mètres en dessous du niveau de la mer. Ça veut dire que Jésus va là où c'est le plus bas pour rencontrer Zachée. Il n'hésite pas, en tant que fils de Dieu, à descendre au plus bas pour rencontrer l'homme qui en a besoin. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Jéricho, en 2011, a fêté un anniversaire particulier parce que Jéricho a aussi la particularité d'être considéré, alors surtout par les Juifs, mais par d'autres aussi, comme la ville la plus ancienne qui existe au monde. En 2011, ils ont fêté l'anniversaire de Jéricho. On dit qu'elle a plus de 10 000 ans, mais en tout cas l'anniversaire de la plus vieille ville du monde. La plus vieille et la plus basse. C'est-à-dire que Jésus va là où c'est le plus profond et là où il y a les choses les plus anciennes pour rencontrer Zachée. J'ai envie de dire que c'est ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Il n'hésite pas à vouloir nous rencontrer là au plus profond de nous et dans les choses les plus anciennes, celles qui peuvent laisser des blessures, des meurtrissures. J'ai travaillé avec 4000 femmes en addictologie. Le témoignage de ces femmes a été qu'elles ont subi des blessures, des meurtrissures qui ont pu les conduire dans les addictions. Mais il y a toujours possibilité d'être rencontrées, alors par la foi avec Dieu, mais aussi humainement pour pouvoir guérir ce qui est le plus profond. Donc le lieu de rencontre de Jésus et de Zachée n'est pas le plus anodin qui soit. Jésus rencontre l'homme dans ses besoins, là où il se trouve, et parfois au plus bas. Alors c'est vrai que parfois, nous cherchons Dieu quand on est au plus bas. Rarement quand on est au plus haut. Vous l'avez constaté. Souvent, c'est quand on est confronté aux échecs, aux ruptures, aux souffrances, à la maladie, que tout à coup, on se souvient que peut-être je pourrais me tourner vers Dieu. Et Dieu n'est pas contre cela. Il vient vers nous. Là, Zachée, on a son profil. C'est un homme riche, qui a une position un peu particulière, qui a des problèmes de taille. C'est le plus petit, ou un petit homme, un homme de petite taille. Et c'est quelqu'un qui travaille pour les Romains. Et il n'est pas péager comme Matthieu. Il est plus que ça. Il est le chef des péagers, c'est-à-dire qu'il est le chef de ceux qui travaillent pour récolter l'argent pour les Romains. Alors, comme je le dis souvent, c'est un collabo. D'où, je dirais, la mésestime de son environnement et des autres Juifs. Et pourtant, cet homme-là entend parler de Jésus. Il en entend seulement parler. Mais ce qu'il a entendu de Jésus suffit à le mettre en route et à le mettre en marche. Je veux aller voir qui il est. Et la question ce matin parmi nous, c'est est-ce que nous avons cette même curiosité ? Est-ce que nous avons les uns et les autres le désir d'aller voir Jésus pour savoir qui il est ? Alors, quelle est la motivation de Zachée ? On ne la sait pas très bien. On entend juste Luc dire « Il cherchait à voir qui était Jésus ». Alors, est-ce que c'est parce que quelqu'un lui en a parlé ? Est-ce que c'est parce qu'il en a entendu parler, parce que c'est celui dont le nom circule dans toute la Galilée, la Samarie ? Est-ce que c'est parce que ça fait du bien d'être vu avec lui, hein, avec Jésus, tout le monde en parle, c'est une célébrité locale. Est-ce que c'est pour pouvoir en parler à ses amis, à ses connaissances, sans vanter, j'ai vu Jésus ? Pas n'importe qui, je l'ai croisé, je l'ai aperçu. J'avais des patientes, une fois, qui sont revenues de leur promenade du dimanche après-midi, et qui sont revenues et qui ont dit « On a vu Thierry l'ermite ». Elles étaient heureuses, heureuses. Il y avait un feuilleton qui se tournait à moellons, et ils ont dit « J'ai vu Thierry l'ermite ». Il y a deux patientes, une fois, qui terminent leur week-end. Je mange avec elles le mardi. Et je dis « Alors, votre week-end s'est bien passé ?»« Oui, oui, on est allé à Groix. » « Et alors, ça s'est bien passé ?» Il a plu toute la journée, c'était terrible. Il a plu. Donc, on s'est réfugié dans un café. Pour des patientes qui se soignent par rapport à l'alcool, ce n'est pas le meilleur des endroits. Mais elles se disent « On a passé une bonne après-midi. » Et puis, il y avait un type à côté de nous. Bah, il buvait sa bière, il buvait sa bière, et puis il rebuvait sa bière. « Ah bon, ça vous a gêné ?»« Non, non, on a découvert que c'était Renaud. » On a passé l'après-midi avec Renaud, c'était extraordinaire. On aime bien ça, hein, être avec les célébrités locales. Là, est-ce que c'est la motivation de Zachée ? Est-ce qu'il veut voir qui est cet homme profondément ? Est-ce que c'est son identité ? Est-ce que c'est découvrir si c'est simplement un beau parleur, un prophète, ou bien plus que cela ? Certains diront que c'est la réincarnation d'Élie, le prophète qui est décédé il y a 500 ans et dont les Juifs attendent le retour. Vous savez qu'à la Pâque juive, les Juifs laissent la porte entrouverte, aujourd'hui encore, les Juifs orthodoxes, au cas où le nouvel Élie pousserait la porte et s'asserrait au milieu d'eux. Donc il y a une table avec un plat, un pain, une coupe, et ils attendent le nouvel Élie. Est-ce que c'est lui ? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Le prophète Malachi disait qu'Élie allait revenir, donc c'est peut-être lui. Serait-il même peut-être le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, celui qui a l'onction, Messie et Christ, ça veut dire la même chose, un mot en hébreu, un mot en grec. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est celui qui doit sauver Israël et voire même l'humanité ? Zachée cherche à savoir qui est Jésus. Mais il y a une chose qui est plus intéressante encore dans ce récit, c'est que si Zachée, c'est pas facile à dire, hein, ça, Zachée cherche, Jésus cherchait aussi Zachée. À la fin de ce récit, il est dit « Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce que tu es perdu ?» Or, être perdu, moi, c'est ma spécialité. Mes meilleurs amis depuis ma jeunesse se méfient de mes voyages, de mes organisations, parce que j'ai l'art de me perdre très facilement. sans trop m'inquiéter, je me perds. Est-ce que vous êtes perdu dans votre vie? Est-ce qu'il y a aussi nécessité pour vous de trouver la direction de votre existence? Cette déclaration de Jésus, qui est faite à la fin de ce récit, fait prendre conscience que nous sommes cherchés par Jésus. Et ça, c'est une révélation. Est-ce que j'ai eu cette révélation que Jésus me cherche? Ce n'est pas nous qui le découvrons par nous-mêmes, c'est Dieu qui nous révèle qu'il nous cherche. Zachée apprend cela des lèvres même de Jésus. Si nous pouvons dire facilement que nous sommes en recherche de Dieu, il y a quelqu'un qui m'a dit cela cette semaine. Je cherche Dieu, je suis en recherche. Je ne crois pas, mais je cherche. C'est déjà une bonne chose. Mais si nous nous cherchons, nous pouvons être convaincus que lui nous cherche également. Il veut être celui qui peut remplir notre vie et répondre à la soif de notre cœur. Ça prend du temps de réaliser que Dieu, par Jésus-Christ, nous cherche depuis probablement plus longtemps que nous le cherchons. Il s'agit d'une révélation. Dieu m'a cherché. Essayez de dire cela, peut-être pas à voix haute, hein, mais essayez de le dire dans votre tête. Dieu m'a cherché. La fille d'un professeur de théologie que j'avais, à sa fille Christiane, qui lui avait posé la question quand elle était enfant, elle dit, mais papa, où est-ce que j'étais avant que je naisse? Et là, tout professeur de théologie qu'il était, il s'est creusé la tête pour dire, qu'est-ce que je lui donne comme réponse qui lui parle à elle qui a quelques années? Et il a eu cette réponse que je trouve merveilleuse. Il lui a répondu, avant que tu naisses, tu étais dans la pensée de Dieu. Waouh! Je trouve que c'est une belle image. J'étais dans la pensée de Dieu. Et quand je me suis perdu, comme un père, il m'a cherché. Vous rappelez-vous de la première question qu'il y a dans la Bible? C'est une question que j'aime. Voilà. Il y en a qui m'ont écouté prêcher pendant des années, donc ils ont les réponses. La première question que Dieu pose dans la Bible, c'est « Où es-tu ?» Et c'est une question que Dieu pose dans le jardin d'Éden quand l'homme et la femme se sont séparés de lui par la désobéissance. Et la première question que Dieu pose, c'est « Où es-tu ?» Il commence déjà là sa quête de l'homme qui est perdu, qui s'est éloigné de lui. Et puis, là commence aussi sa recherche pour toi, pour moi. Et l'homme qui répond dans le jardin d'Éden, j'ai eu peur, je me suis caché. Quelles sont les peurs qui m'ont incité à mettre de la distance entre Dieu et moi? Quelles sont les colères qui m'ont poussé à le rejeter, voire à l'ignorer, à le rendre responsable de mes échecs ou de mes souffrances? Même au plus bas de ma vie, dans mes Jéricho, il me cherche et il me cherchera toujours. Est-ce que Zachée s'est mis volontairement sur le chemin de Jésus? N'est-ce pas plutôt Jésus qui est venu vers lui? Et c'est bien là le sens profond de l'évangile. Bonne nouvelle, c'est le mot évangile en grec. C'est Dieu qui cherche l'homme. Jésus, le Fils qui s'incarne et qui vient au milieu de nous. J'aime beaucoup ce verset du psaume 14 qui dit « L'Éternel, Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. » Quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Je ne sais pas si je suis intelligent. Mais quand j'ai eu une quinzaine d'années, je n'étais pas croyant, pas d'une famille chrétienne, mais j'étais dans un tel Jéricho, dans les cités HLM du Havre, que j'ai cherché Dieu. Et j'ai compris qu'il me cherchait aussi. Et ça a été un bouleversement. Zachée cherche à voir, quitte à être ridicule. Il est petit, de taille, représentant de l'autorité romaine, chef des péagers, et il se met à grimper sur un arbre. Il y a des positions plus nobles que celle-ci. Vu sa situation et son identité, il fait fi du regard des autres parce que sa soif de voir Jésus est la plus grande. Je veux le voir, mais pas simplement le voir, je veux voir qui il est. Combien ont mis de côté leur élan dans leur quête de Dieu par souci du qu'en dira-t-on ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je cherche Dieu ? Si je vais dans cette direction-là ? Si je m'intéresse à Christ dans ma vie ? Et puis, comme il est petit, la foule entoure Jésus, les disciples entourent Jésus, tout le monde fait écran. Et il est naturel que la foule de ce monde fasse écran aux petits qui cherchent à voir Jésus, à le rencontrer. Un monde qui ne le laissera pas voir, mais donne une version édulcorée pour le présenter. C'était un homme bien, Jésus. Monsieur, il avait une belle personnalité. C'était un homme de paix. Oh, c'est l'égal d'un Gandhi ou d'un Martin Luther King. J'avais un chant comme ça pour les camps de vacances. Pour les jeunes, on mettait Jésus, Gandhi, Luther King sur la même ligne. Voilà, le monde présente Jésus et fait écran à ce qu'il est véritablement. Le monde n'a pas le désir de laisser Christ se révéler, dire qui il est, le laisser dire quel est son désir pour moi, ce qu'il est prêt à faire pour moi et pour toi. J'irais même les disciples sont autour de Jésus. Et je trouve ça intéressant, ils font aussi écran. C'est terrible quand les disciples de Jésus font écran entre ceux qu'ils cherchent et la personne de Christ. Et je crois que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des temps où l'Église a centré les regards des autres sur elle-même et non pas sur Jésus. Ah, Jésus cherche Zachée et Zachée cherche Jésus. Voir qui il est. Alors, Luc utilise le verbe être. Il veut savoir qui il est. Qu'il a déjà qualifié pour Zachée. On dit Zachée, il est chef des paysans. Il est riche. Est-ce que Zachée veut savoir dans l'échelle sociale où se trouve Jésus ? Rappelez-vous des mages qui viennent adorer après un long voyage. Où est-ce qu'ils vont ? Au palais d'Hérode. Le roi des Juifs doit forcément être dans un palais. Est-ce qu'il est en haut de l'échelle sociale ? Est-ce que c'est un puissant de ce monde ? On peut se rappeler la rencontre de Moïse dans le désert, quelques centaines d'années avant. Moïse qui a fui l'Égypte, qui garde des troupeaux, et puis en plein milieu du désert, là aussi Dieu nous rencontre au plus bas de nos Jérichos, au plein milieu de nos déserts. Et là, un buisson brûle sans se consumer. Et la réflexion de Moïse, c'est de dire, mais qui es-tu ? Dieu dit, je vais t'envoyer vers Pharaon pour libérer mon peuple. Mais qui es-tu ? Quel est ton nom ? Quelle est ton identité ? Là aussi, il cherche à savoir qui est ce Dieu qui lui parle. Et Dieu va beaucoup l'aider. Il dit « Vayehi vayeha », ce qui veut dire, en bon français, « Je suis celui qui est ». Ah, mais ce n'est pas ce que je te demandais, les Égyptiens, ils ont Isis, Osiris, Anubis, ils ont Seth, ils ont des noms bien concrets. Donne-moi un nom et puis une image qui puisse marcher devant nous. « Je suis celui qui est », ce qui en français donnera Yahvé ou Yehovah. « Je suis celui qui est, je n'ai pas d'autre nom. » Ah. Et en fait, Zachée est confronté à ce désir. Je veux savoir qui il est. L'étonnant dans ce récit de rencontre, c'est que si Zachée cherche à savoir qui est Jésus, Jésus sait qui est Zachée. Quand il se place sous cet arbre, ce sycomore, eh bien, Jésus lève la tête et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La première chose qui est étonnante, c'est que si Zachée ne sait pas qui est ce Jésus dont il veut connaître l'identité profonde, Jésus connaît Jésus, Zachée. Il le connaît. De la même manière que dans l'Évangile, ce qui nous est dit, c'est que le Père connaît chacun de ses enfants. Il me connaît et il te connaît. Ce que tu es au plus profond de toi, ton identité, ce que tu as traversé, ce que tu vis aujourd'hui. Dieu te connaît par ton nom. L'histoire des noms dans la Bible est assez étonnante. Hein, il dit dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, que nous recevrons un nom nouveau. Ça m'inquiète un peu parce que je me dis que quand je serai au ciel et que je cherchais Francine, il faut que je sache quel est son nouveau nom. Et ce ne sera pas évident. Donc, quel est ton nom ? Je suis. Tu es Zachée, je te connais. Est-ce que moi aussi, je peux trouver en Jésus mon identité profonde, ce que je suis ? J'ai eu un problème dans mon enfance, c'est que, ayant été ballotté de maison en maison, de foyer en foyer, quand j'étais enfant, je m'appelais Jean-Marc, mais je ne savais pas quel était mon nom de famille. Comme j'habitais chez ma tante, je me suis dit, tiens, je dois avoir le même nom que mon cousin avec lequel je grandissais, donc j'ai adopté le nom de famille de mon cousin. Puis on m'a dit, non, c'est pas ça. Puis un jour, il y a l'homme avec lequel ma mère vivait qui a dit, appelle-moi papa si tu veux, j'aimerais. Donc j'ai choisi son nom, deuxième nom. Puis quand je suis rentré à l'école, à l'âge de 5 ans, 6 ans, là on m'a dit, ah maintenant, votre nom c'est ça, Wang To. Je dis, ah bon ? Mais en fait, c'est quoi mon nom ? Je ne sais pas quel était mon nom dans mon enfance, mais je sais que Dieu connaît mon nom et mon identité. Parfaitement, ce que je suis. Est-ce que je peux trouver moi aussi mon identité en lui ? Quand le regard de Jésus s'accroche au regard de Zachée et inversement, il est dit que Jésus leva son regard vers Zachée. Deux regards, celui d'un fils d'Abraham et celui du fils de l'homme. C'est comme ça que Jésus se définit au verset 10. Celui d'un pécheur, verset 7, et celui de son sauveur, verset 10. Celui d'un notable et celui d'un serviteur de tous. Ce sont ça, ces deux regards qui se croisent, qui se rencontrent. Celui qui est petit et qui doit monter sur un arbre pour voir Jésus, et celui qui était dans la gloire et qui a accepté d'aller au plus bas, à Jéricho, pour rencontrer Zachée, pour me rencontrer. Est-ce que tu as croisé le regard de Jésus dans ta vie, de cette manière-là, avec ce sens-là ? Il a appelé Zachée par son nom. Jésus lève son regard. Chez Luc, dans l'évangile de Luc, quand Jésus lève les yeux, c'est pour marquer son intérêt, voir son admiration. On le voit dans l'évangile de Luc, au chapitre verset 21 et 2, au sujet de la veuve qui met une pièce. Il leva ses yeux et vit une veuve. Et là, il est plein d'admiration. Quand il lève les yeux vers Zachée, il y a de la considération de Jésus pour celui qui est marché par le péché, certainement, par le rejet, par les erreurs qu'il a faites, par ses engagements, etc. Oui. Mais il croise le regard d'un Christ qui est plein d'attention, de douceur, d'empathie. Et c'est cela qui a gagné le cœur de Zachée. Est-ce qu'il a gagné ton cœur aussi à toi ? Est-ce que tu le vois, son regard sur toi, de la même manière ? Dans Ésaïe, il y a un verset que j'aime beaucoup, qui rejoint ce texte-là de Zachée, c'est Ésaïe, parlant du peuple d'Israël, rapporte le propos de Dieu vis-à-vis d'Israël, qui dit « Ne crains pas, je te connais par ton nom, tu es à moi. » Est-ce qu'aujourd'hui, cette parole qui me rencontre peut, par Christ, toucher mon âme, mon cœur, mon être, et me dire, mais Dieu me connaît. Il connaît mon nom. Je n'ai pas de peur à avoir. Et je peux être à lui. Je peux être à lui. Zachée, ce nom est significatif. Vous savez ce qu'il veut dire, Zachée, en hébreu ? Il y en a, il y a une famille tout entière. Hier, je me suis amusé à voir les prénoms parce qu'il y a, Il y a trois enfants, un père, il y a trois noms hébraïques, un nom breton. Il fallait au moins ça, un breton pour les trois hébraïques. Et je disais, quand ta papa s'appelle Dieu, Théo, ça donne de la position, hein. Moi, je dis souvent, ma mère a une drôle d'idée, et dans des circonstances un peu étranges, elle m'a appelé Jean-Marc. C'est un nom hébreu, un nom grec. L'hébreu, ça veut dire Dieu a donné, et le grec, ça veut dire marteau. Dieu a donné un marteau pour un bricoleur comme moi, c'est pas évident. J'aurais préféré m'appeler Pascal. Hein? Zachée, ça veut dire celui qui est juste, celui qui est parfait, saint. Alors, c'est pas un nom par hasard, celui qui est purifié par Dieu. Et en fait, lorsque le regard de Jésus se pose sur Zachée, Jésus voit ce qui était avant le péché, avant la chute, avant la nature pécheresse. Il voit l'homme avant la faute originelle. Il est capable de voir l'homme dans sa sainteté, sa pureté. Il y a le péché, bien sûr. Et il faudra bien que l'œuvre de la croix passe. Mais il est capable de voir... Alors, il y a une autre traduction pour Zachée. L'innocent. Celui qui est innocent. Parce qu'il est capable de le voir en dehors du péché. Waouh ! Il est capable de me voir en dehors de mes fautes et de voir déjà ce que je peux devenir par l'œuvre du salut. C'est cela, le regard de Christ, de Jésus, qui lève les yeux et qui voit Zachée. Il ne voit pas un chef de péager, il ne voit pas un pécheur, il ne voit pas quelqu'un de coupable. Il voit déjà ce qu'il y a de précieux dans la nature de Zachée. Bien sûr, il est chef de péager, bien sûr, il est coupable. Mais il voit cela, il a cette capacité en tant que fils de Dieu. Alors, hâte-toi de descendre, parce que je vois en toi celui qui a été créé à l'image de Dieu, cette pureté originelle et première qui précède le péché. Et c'est là le regard de Dieu sur toi et sur moi. Et parfois, je peux avoir un regard très dur sur moi-même, me sentir tellement coupable, tellement sale. J'ai vu dans des entretiens des femmes qui étaient des victimes d'agressions, etc., se sentir tellement sales et se considérer comme sales et impures. Découvrir que le regard de Jésus me voit dans cette image où je suis créé à l'image de Dieu, même s'il y a du péché dans ma vie. À toi de descendre. Tu es petit. T'es petit, alors t'es monté, je comprends. Maintenant, descends et viens. N'aie pas peur de ce que tu es, de ton handicap aux yeux des autres. Et c'est ce que dira ensuite Jean-Baptiste. Il dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. T'es petit, reste dans cette position d'humilité. Descends, n'aie pas peur de ce que tu es, dans ta petitesse, dans ta taille, dans ce que tu es. Descends et viens me rencontrer. Hâte-toi, parce que Jésus propose à Zachée une rencontre plus profonde, plus personnelle. Je veux entrer chez toi. Et là, il y a quelque chose qui nous concerne aussi. Je veux entrer chez toi. J'irai même plus, je veux rentrer en toi. Parce que je me tiens à ta porte, je frappe, et si tu entends ma voix et ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Parole de l'Apocalypse. C'est cela la pensée de Christ. Je veux entrer chez toi. Hâte-toi, ne perds pas de temps. Certains me disent, avec beaucoup de regret, quand ils font cette rencontre avec Jésus, certains ont ce regret de ne pas avoir fait ce pas-là plus tôt, en se disant, mais j'ai perdu tellement d'années dans ma vie. Je dis, bien sûr, bon, c'est un chemin. On a tous des chemins différents. Moi, il se trouve que ça a été plus jeune, mais d'autres plus tardivement. Mais alors, même si c'est tardif, hâte-toi, dépêche-toi. Alors, quand je dis, c'est dépêche-toi, pas simplement d'une rencontre qui conduit à la conversion, mais qui conduit à toutes les conversions. Hâte-toi. Fais que l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu s'installe dans ta vie maintenant. Ne perds pas de temps. Entendu, Ivan ? Perds pas de temps, Kevin. Perds pas de temps. Hein ? Oui, vous êtes jeune, c'est vrai. Bon, Jean-Louis, perds pas de temps. Je fais les extrêmes. Ne perdons pas de temps. À toi de descendre, d'être dans une position d'humilité, certes, d'être petit, mais à toi de descendre afin que je rentre chez toi pour que je puisse accomplir mon œuvre. Il faut, d'ailleurs c'est dans les propos de Jésus, il dit, car il faut que je demeure aujourd'hui. Je sais qu'il y en a certains, la formule « il faut », ils n'aiment pas trop dans la bouche d'un prédicateur. Je viens de voir deux sourcils se lever, là, comme ça, en une microseconde, mais je l'ai vu. Il faut. Ah, il faut faire ceci, il faut faire cela. Là, Jésus dit simplement « il faut que je demeure ». Mais vous savez, quand il dit « il faut », c'est dans la bouche de Jésus un côté impératif qui est en lien avec l'œuvre qu'il doit accomplir. À l'âge de 12 ans, quand il est parti, qu'il est resté à la synagogue et ses parents le cherchaient partout, il leur a dit, mais il faut que je m'occupe des affaires de mon père, il faut. Ses parents ont dit, bon, ok, bah, il faut. C'est son œuvre, c'est son travail. Le « il faut » dans la bouche de Jésus, c'est autre chose que les « il faut » que nous nous imposons ou que nous pouvons imposer aux autres. Il faut que tu sois sage. Il faut que tu manges ta soupe. Hein ? Il faut que tu tiennes bien. Dis bonjour à la dame. Dans la bouche de Jésus, les « il faut », c'est « il faut que mon œuvre s'accomplisse ». Il faut détacher cette femme des liens de Satan. Toujours dans Luc, chapitre 13, verset 16. Il faut, dans la bouche de Jésus, s'inscrit au cœur de la mission du Christ et à la lumière de l'œuvre de la croix. Il faut que je rentre chez toi. Il faut que l'homme, le Fils de l'homme, souffre beaucoup et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Chapitre 9, verset 22 dans Luc, toujours. Il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et demain, dit Jésus. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire, dit-il aux pèlerins d'Emmaüs. Il faut. Il faut que je rentre chez toi. Parce que c'est là la volonté de mon amour pour toi. Je veux rentrer en toi et avoir une relation d'intimité, de vie avec toi. Manger, c'est ce qu'il y a de... Il y a beaucoup de choses qui se passent autour des repas. Et aller manger à la pause, un petit resto, c'est des moments sympas, parce que c'est des moments de rencontre. Et en fait, Jésus a vécu de... profonde rencontre avec ses disciples, avec les hommes et les femmes qui l'entouraient au cours de repas. Il faut que je rentre et que je mange avec toi. Demeurez chez toi, demeurez en toi. L'évangile de Jean, de son côté, dira « Demeurez en moi comme je demeure en vous. À toi de descendre afin que j'entre dans ta vie. » Accueillir Accueillir le Seigneur, c'est quelque chose de particulier. Il faut que je rentre chez toi, il faut que tu m'accueilles. Et en fait, lorsqu'il utilise ce verbe-là, Luc utilise un verbe qui se dit décomaï, être accueilli. Être accueilli, c'est accueillir quelqu'un normalement. Mais dans ce passage, il utilise un autre verbe, il utilise hupodécomai. Et en fait, ce verbe-là, il faut que tu m'accueilles, que tu me fasses rentrer, que je rentre chez toi. Ça veut dire, hupodécomai, accueillir quelqu'un d'important. Et dans ce texte-là, Jésus dit, il y a quelqu'un d'important qui veut rentrer chez toi. Est-ce que tu en as conscience? On retrouve ce même verbe chez Marthe et Marie. Elles accueillent Jésus, pas n'importe qui. Est-ce que tu as conscience que Dieu veut rentrer dans ta vie? Pas seulement au commencement de sa relation, mais tous les jours, à chaque instant. Est-ce que tu veux l'accueillir dans cette dimension-là? Ou bien est-ce que tu lui mets une claque dans le dos et tu le traites comme un copain? Je suis en train de travailler sur le niveau doctrinal, sur un mouvement d'église qui est en train de faire des petits aux États-Unis, en Europe et en France. Et on qualifie Jésus comme uniquement celui qui ouvre la porte du royaume de Dieu. C'est le portier. Mais véritablement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dans le salut, c'est nous qui faisons, qui décidons, qui régnons. Il est juste le portier. Et plus encore, comme on est dans une position de toute puissance, le Saint-Esprit est qualifié, en toutes lettres, hein, c'est pas moi qui le qualifie, de guide touristique. Il permet de découvrir le royaume. Alors Jésus, c'est le portier, l'Esprit Saint, c'est le guide touristique. Et Jésus dit à Zachée, est-ce que tu veux m'accueillir, hupo de comaï, chez toi? Parce que c'est le Fils de Dieu qui rentre dans ta vie. C'est le sauveur de ton âme. C'est celui qui veut régner en toi. C'est celui qui veut te faire advenir, devenir ce que je vois de toi, ce pourquoi tu as été créé. Hâte-toi de descendre. Fais-moi rentrer chez toi. Seigneur, ta parole est d'une limpidité, d'une clarté pour nous interpeller, nous faire comprendre quel est le chemin que nous avons à parcourir, à faire. Alors nous sommes là devant toi, Seigneur, pour l'entendre, la recevoir. Nous aussi, nous voulons chercher à voir qui tu es. Nous aussi, nous voulons te rencontrer cœur à cœur. Nous voulons croiser ton regard, ce regard qui te révèle, mais qui nous révèle aussi en toi. Nous voulons t'accueillir. Donne-nous, Seigneur, que ce ne soit pas que des mots, que ce soit une réalité pour nos âmes, pour nos vies. Parce que toi, tu as accepté de quitter ton ciel de gloire pour descendre sur la terre au plus bas de cette terre, jusqu'au Jéricho de nos vies, afin de nous rencontrer, de nous sauver. Alors Seigneur, par ton Esprit Saint, qui aujourd'hui nous conduit dans toute la vérité, accompagne-nous Seigneur, conduis-nous, sauve-nous. Amen.